France Culture. Heures 13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bienvenue dans les midis de culture à 13h. Nous serons chez Alejandro Jodorowsky, l'artiste aux mille vies, fête ses 97 ans, en sortant un livre sur toute son œuvre chez Tachène. Mais d'abord, je déclare la critique spéciale César 2026 ouverte. Nous allons revenir sur la cérémonie qui s'est tenue hier soir à l'Olympia. La politique et l'artistique sont au programme. Nos critiques ont veillé tard pour ne pas rater une miette du show proposé par le maître de cérémonie Benjamin Laverne. Ils ont guetté la moindre mimique de Jim Carrey, récompensé par un César d'honneur, et vont commenter le palmarès et faire un point sur cette grande famille du cinéma français. Et pour se prêter à l'exercice, Antoine Guillot, bonjour.
Bonjour Marie, merci de m'avoir invité, merci à mes parents, à mon agent.
Vous êtes critiqué, on vous écoute dans Plan Large tous les samedis sur France Culture et Sandra Nonana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et critique de cinéma à Libération, bienvenue à tous les deux.
Les collègues ont attiré mon attention sur un problème majeur que nous avons, et particulièrement en France, les artistes. Ils jugent, ils critiquent, ils doutent, ils nuancent, ils chouinent. Ouah, ouah, le monde va mal. Ouah, ouah, il y a trop d'inégalités. Bah non, c'est pas bien ça. Donc, on va continuer à faire de l'art, mais sans les artistes. Ah, oh, c'est grisant toute cette brutalité. Tenir tout ce petit monde dans sa main, serrer, écraser. Oh, bah il est mort le cinéma du coup. C'est con. Puis ça va vite, hein. 3 décrets et c'est fini. Ça fait mal d'imaginer un monde dans lequel on pourrait tuer la pensée. Parce que la culture, l'université, la recherche, le journalisme, ce sont nos poumons. C'est ça qui fait qu'on est vivant. Sans ça, on étouffe ou on s'entretue. Alors le cinéma français, il est bien vivant. Il est vivant et fragile. Et d'ailleurs, je dirais même plus, il est vivant parce qu'il est fragile.
C'est un extrait du discours d'ouverture de la cérémonie prononcé par la présidente Camille Cotin. Sandra Onana, peut-être pour commencer, un avis général sur cette cérémonie. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ?
Je veux dire, c'est une soirée, c'est la soirée de la profession où elle se remet les récompenses, donc c'est toujours une photographie partielle de l'année du cinéma, et de la critique et du reste des spectateurs. C'est toujours un petit nombre de films retenus. Et puis voilà, il y avait en l'occurrence 2 films qui dominaient la course. C'était L'Attachement et Nouvelle Vague. Et on a une impression, quand bien même Nouvelle Vague a triomphé, que tout le monde a un petit peu eu sa timbale, sa coupole. Il y avait une distribution assez équitable pour que personne ne reparte perdant. Donc voilà, une cérémonie que j'ai trouvée assez un peu marquée par cette ambiance un peu de dignité vigilante qu'on entend dans le discours de Camille Cotin sur cette sensation d'imminence, de grand péril que personne n'a nommé très explicitement. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est l'extrême droite? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est le climat? Enfin, c'est voilà, une impression comme ça de pré-apocalypse et de se resserrer sur des valeurs et des mots un peu majuscules et pédagogiques sur ce qu'il faut garder et conserver.
Avant de donner la parole à Antoine Guillot qui trépigne d'impatience de nous parler de sa soirée, peut-être Sandra, est-ce que vous pourriez revenir vraiment en quelques mots? Vous avez dit que c'était la soirée de la profession parce que ce sont les professionnels qui votent. Peut-être rappeler les règles du jeu en quelques phrases.
Oui, bah ça a été c'est drôle parce qu'il y a quelques années, on s'est jamais autant mis à parler du fonctionnement du vote des Césars parce que la gouvernance des Césars était complètement remise en question. Il y a eu ce moment de mutinerie, de révolte avec un appel à ouvrir un peu les fenêtres et faire un peu entrer l'air, donc une refonte des statuts pour aller vers le sens de l'histoire, plus de parité, plus de démocratie dans le fonctionnement de conseil d'administration. Bon, ça a peut-être 5 ans maintenant. Et donc, c'est une académie, effectivement, avec des collèges de professionnels, c'est-à-dire c'est la profession qui remet ses récompenses Enfin, il y a les réalisateurs, il y a les acteurs, il y a les techniciens, il y a les exploitants. Il y a toujours une suspicion de prime à l'envergure des films, c'est-à-dire plus ils ont recruté de techniciens sur les plateaux, plus ils sont ambitieux du point de vue du budget, des moyens de production, plus il y a des chances que les gens qui votent aient bossé sur le film et le plébiscite dans les urnes. Bon, en l'occurrence, c'est pas des urnes, c'est une plateforme avec deux tours de vote secret. Et il est certain que personne dans la profession ne peut regarder tous les films de sortis dans l'année. Donc on va encore une fois voter pour ceux qu'on a déjà dans son champ de vision, qu'on a déjà vu, qu'on a envie de défendre. Donc c'est toujours un peu des reproches qui sont faits. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, ils sont environ 5000 votants à l'Académie. Il y a eu des efforts sur la parité, il y a eu une volonté affirmée de faire entrer un peu le présent et d'arrêter de renvoyer l'image d'une coterie très fermée d'entre-soi.
Antoine Guillot, même exercice, peut-être un premier avis sur cette cérémonie. Votre soirée, comment s'est-elle passée ?
Elle se passe rarement bien au César, c'est quand même souvent d'un grand ennui, parce que c'est une cérémonie, mais c'est aussi censé être un spectacle télévisuel qui est de moins en moins suivi. Je crois qu'ils ont eu la cinquième audience
jeudi soir. Je crois qu'il y a eu 1,4 million.
Un million de spectateurs, donc ça baisse de plus en plus, ça intéresse de moins en moins de gens. Après, c'était une cérémonie que je dirais assez... polissée et inquiète. Vous avez un peu coupé dans le discours de Camille Cotin, évidemment. Il y a eu ce moment un peu pédagogique, pas inutile, rappelant le fonctionnement et le financement du cinéma français, hein, que ce ne sont pas les impôts, ce sont une taxe prélevée sur les billets. Donc voilà, ce petit moment utile.
Oui, elle a dit, quand vous allez voir Dune, vous financez l'histoire de Souleymane.
Voilà, exactement. Et ça s'est terminé par un « Vive le cinéma, vive la France ». Qui a été un peu le leitmotiv de la soirée, puisqu'il y a eu plusieurs hommages à la France qui permet d'avoir des études gratuites, hommages aux services de santé, de l'éducation, des paysans. Donc on disait, ouais, c'est quand même vachement bien la France, ce qui est effectivement, comparé à d'autres pays, on peut dire qu'il y a des services publics qui fonctionnent encore, étant attaqués de partout, c'était pas inutile de le faire, mais cette inquiétude dont parlait Sandra tout à l'heure se ressentait quand même très très fort. Quoi. On n'a pas parlé aussi de l'IA.
Alors peut-être oui, c'était l'autre sujet quand même qu'on attendait, enfin, parce qu'il y avait eu des tribunes nombreuses dans la presse juste
voilà,
avant.
Donc on a eu le moment où le doubleur officiel de Jim Carrey a interpellé la ministre de la Culture fraîchement nommée.
Nommée 2 heures avant.
deux heures avant, Alison Wheeler.
Parachutée en hélicoptère.
Alison Wheeler a dit de manière un peu piquante: vous en avez pas marre de sacrifier la culture sur l'autel du capitalisme le plus rance, vous qui êtes nommé depuis 2 heures. Elle est nommée depuis 2 heures, mais enfin, elle conseillait Emmanuel Macron précédemment, donc elle n'est pas complètement étrangère à ces questions. Mais tout ça s'est fait de manière très polissée. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que, quand même, rappelons que pour l'instant, puisque ça va peut-être changer plus tard, cette cérémonie est diffusée sur Canal+, qui est à la fois le grand pourvoyeur de fonds du cinéma français, mais de moins en moins, se retirant notamment de tous ces films dits du milieu, dont on va peut-être reparler, et ça explique peut-être pourquoi il y a quand même plus beaucoup de films intéressants français dans cette zone-là, et qui est aussi possédé par un milliardaire qui essaye d'influer sur le débat politique, et certainement ayant contrôlé pas mal les interventions. Donc on n'a pas eu de grand esclandre, on a eu des paroles assez convenues qui dérangent quand même pas grand monde. Je remarque que c'est sans doute la première grande cérémonie du cinéma depuis quelques années à ne pas du tout parler de Gaza, à ne pas du tout parler de l'Ukraine. Donc là, la cause importante
la
cette
cause
année-là...
C'était l'Iran. Il en faut toujours une qui mette d'accord les pins.
Mais là, tout ce qu'aurait pu déranger, par exemple, si, je ne sais pas moi, si le César du meilleur documentaire avait été remis à Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepi Defarsi, peut-être que ça aurait un peu détonné. Mais là, c'était comme si, bon, on est un peu inquiet en France... on est solidaire avec les Iraniens et en particulier les Iraniennes, mais sinon tout ça va pas mal, quoi.
Mais ce que vous dites en fait, c'est que si c'était politique dans les mots et policé, puisque vous l'avez dit, dans le palmarès, en fait, cette revendication politique, elle s'est pas retrouvée. On n'a pas récompensé les films qui, eux, prenaient en charge politiquement les questions.
Je pense que le palmarès, ce qui transpire aussi de ce plébiscite de nouvelle vague, qui est quand même une récré un peu nostalgique, rétro, noir et blanc, qui filme le making-of d'Abou Toufle de Godard, qui fait venir des acteurs inconnus extrêmement charmants pour jouer Jean Seberg, Belmondo. On a entendu parler de bulles de champagne, on a entendu parler de voyages dans le temps. Il y a quand même un côté réconfortant à jouer sur cette espèce d'époque qui aurait été celle de l'insouciance, bon, qui était quand même 69, qui était un peu celle justement d'une révolte. 59, qui était celle d'une révolte dans les formes et militante. Je pense que le moment pour moi où il y a quelque chose qui grésille du point de vue du consensus et des discours lisses, c'est l'hommage à Bardot. C'est un moment.
Alors il faut peut-être expliquer pour ceux qui n'auraient pas regardé toute cette cérémonie. L'hommage à Bardot a été détaché des autres hommages des disparus de l'année.
Ouais, c'est toujours. Ça aussi, c'est toujours involontairement cruel au César. C'est-à-dire, il y a beau avoir cette séquence in memoriam qui est une sorte de medley des disparus de l'année, qui est très inclusive avec tous les techniciens, toutes professions confondues. Il y a quand même les gens qui ont droit à leur gros plan, quoi. Et donc Bardot en fait partie, Cardinal a eu le sien. Mais c'est vrai que Bardot, pas un mot a été prononcé. Ça a été juste le magnéto avec des extraits.
On a entendu quand même quelqu'un dans la salle.
Hein, exactement. Bon, pas un mot sur scène. En revanche, on a tous cru à une hallucination auditive sur nos canapés. On savait pas bien si on avait entendu raciste ou fasciste. Mmh. On a entendu des huées. Et c'est un peu ces moments quand même qui sortent du téléprompteur où on comprend que la salle et le dissensus s'engouffrent dans tout ce qui pourrait être lissé de l'hommage noir et blanc, rétro, affectueux du patrimoine, quoi.
Antoine Guillaume, peut-être un mot sur Jim Carrey, lissé lui aussi?
vous parlez des interventions sur son visage, mais je me permettrai pas, Marie. Bel hommage, mais un peu triste aussi. Enfin, bon, c'est dû à la personnalité actuelle de Jim Carrey. Son discours en français était valeureux, mais un peu laborieux.
Il a rappelé qu'en fait, son arrière-grand-père s'appelait Carrey et est parti de Saint-Malo.
Voilà. Ouais. Donc c'était sans doute émouvant. Non, c'est toujours très ennuyeux, ces longs hommages, et avec toujours ce côté, c'est quand même toujours des Américains qui reçoivent ces hommages.
Il est à moitié canadien.
Oui, enfin bon,
ce que nous a appris aussi Cronenberg.
Nord-américain, en tout cas, c'est quelqu'un qui représente le cinéma hollywoodien, et c'est terrible de voir à quel point. Mais y compris avec la question de Nouvelle Vague, parce que Nouvelle Vague, c'est quand même le cinéma français vu par les Américains. Il n'y a plus que les jeunes ou moins jeunes cinéastes américains qui disent « Oh là là, c'est formidable, la France, c'est la Nouvelle Vague », qui est quand même un mouvement qui a plus de 65 ans. Donc, la modernité, bonjour, comme disait Manu Payet à un moment. Et puis, de ce fait, on se dit « Bah oui, aux Oscars en ce moment, on y reviendra peut-être tout à l'heure ». C'est une bataille après l'autre, c'est Marty Supreme. On se dit qu'on peut courir toujours derrière le cinéma américain, mais on est loin d'en avoir l'ampleur.
Quoi. Et l'intervention de la voix française de Jim Carrey, qui est venue donc sur scène, ça vous a paru un moment intelligent justement pour parler de ces histoires d'IA et de doublage, qui est une grande préoccupation du milieu, Antoine Guillaume ?
Oui, du milieu des doubleurs. Effectivement, quoi qu'on fasse, de toute façon, pas tant dans le cinéma, parce qu'on aura toujours besoin de la voix officielle de Jim Carrey, enfin ou d'autres, mais c'est certain que pour tout ce qui est le flux télévisuel, les films d'animation, tout ça, bon, la plupart des diffuseurs ne vont pas s'embarrasser de ces questions, à moins qu'il y ait une loi qui soit votée par le gouvernement et l'Assemblée actuelle. Enfin, ça a l'air quand même assez peu probable.
Je vous propose qu'on entre dans le palmarès avec des morceaux choisis.
Vous avez bien passé des examens médicaux récemment?
Ouais, c'est pour de la fatigue.
Et on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça?
C'est pas un...
Vous êtes jeune donc prioritaire, vous pouvez commencer dès lundi.
Je voulais te demander un truc pour lundi. En fait, je dois aller...
Attends, bouge. C'est la meuf de mon taf, là, elle arrive, faut pas qu'elle me voie.
Faut que je parle un truc. Je dois commencer quelque chose pour...
Tu vas faire une transition?
Non, c'est pas ça.
Deux Césars pour Nino, meilleur espoir pour Théodore Pellerin et meilleur premier film. C'est un film réalisé par Pauline Loques. Mérité selon vous, Sandra ?
Mais oui, dans mes bras, Théodore Pellerin. Non, moi j'aime beaucoup le film et je pense que c'était celui qui avait le plus de chances de l'avoir. Le paradoxe étant que c'est effectivement un espoir chez nous, où on appelle ça meilleure révélation, ça dépend des années, mais qu'il a une carrière de plus de 10 ans aux États-Unis et au Canada à seulement 28 ans. Mais oui, premier
film. Peut-être un petit mot sur le film, chez nous en quelques phrases.
Nino, film sur un jeune homme qui erre dans Paris, après avoir reçu le diagnostic d'un cancer. Et le film joue sur, de 2-3 jours d'errance et de rencontres où en fait, ce qui est très fort dans le film, c'est ce régime un peu de personnage absent à lui-même, sous le choc, hagard, qui va quand même à sa fête d'anniversaire, qui va quand même dîner chez sa mère et qui essaye de sortir ce qui lui arrive sans que les mots arrivent jamais à franchir sa bouche. Donc voilà, ça joue sur des choses assez charmantes et ténues, avec une constellation d'acteurs, certains identifiés, il y a certains connus, il y a Jeanne Balibar et d'autres nouvelles têtes. Donc ouais, c'est un joli premier film qu'on voyait bien arriver au palmarès.
Antoine Guillot sur Nino.
Il y a 65 ans, Agnès Varda avait réalisé un film qui s'appelait Cléo de 5 à 7, qui est peut-être un modèle lointain de Nino. Et alors, le film est sympathique, mais en le voyant, j'avais vraiment l'impression, mais comme d'autres films de cette sélection 2026, de voir un film parfaitement compatible avec les petits écrans de la télévision, produit pour, avec le même langage visuel, c'est-à-dire des champs contre champs sur des gros plans de visage, qui, moi, m'ennuie terriblement. C'est-à-dire que je peux trouver l'histoire touchante, je peux trouver le jeune homme tout à fait attachant, mais visuellement, ça ne me propose rien. Il y avait d'autres films qui auraient pu être sélectionnés dans les meilleurs premiers films, mais qui ne l'ont pas été, qui me semblaient essayer de proposer autre chose, enfin quelque chose de plus cinématographique, que ce soit L'Englouti, Louise Aymon, Le Rendez-vous de l'été, de Valentine Cadic, et sans doute d'autres que je n'ai pas vus. C'est un film qui fait partie, pour moi, de ce grand problème un peu pantouflard du cinéma français qui fait des films selon les normes télévisuelles, quoi, et qui se réinvente pas beaucoup, qui essaye pas beaucoup de faire du cinéma et qui remplit des tuyaux et qu'on oubliera assez vite.
Et peut-être un mot alors sur la révélation féminine, ça on s'y attendait, c'était la grande favorite.
Heureusement qu'elle était là, parce que c'est quand même un des grands sacrifiés de ces Oscars, le film d'Afsia Herzi, La petite dernière, qui là encore, il me semble cinématographiquement essayer quelque chose, provoquer des choses, raffiner un système qui vient de Kechiche, mais avec sans doute plus de bienveillance pour ces personnages et pour ces actrices aussi. Moi, je trouve le film tout à fait formidable. Et elle, effectivement, est une révélation un peu réticente. Moi, j'aime bien ça. Genre, je continue mes études. J'ai pas trop envie de me faire bouffer par tout ça. Et ce qui fait d'elle une grande actrice très physique, notamment, ce qui manque aussi beaucoup dans un cinéma français où on parle beaucoup et ça parle beaucoup par des visages qui blablatent. Là, c'est vraiment une vraie révélation. On voudrait qu'elle continue, et puis peut-être qu'elle continue pas trop,
pour pas trop s'abîmer.
Mais Afsia Herzi, moi je lui aurais donné le meilleur film, la meilleure réalisation, enfin beaucoup de choses qu'elle n'a pas eu. Ce qui est un peu regrettable.
Sandra Onana, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Antoine Guillot sur La Petite Dernière ?
Forcément petite déception pour La Petite Dernière. Je suis d'accord avec cette espèce de côté réfractaire de Nadia Meliti, qui à mon avis aussi vient de ce côté, on sent tout de suite quand une actrice n'est pas du sérail, arrive sur scène, dit mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, il y a quelque chose de très touchant. Et puis effectivement, si on fait la liste, il y a toujours le sport de saison au moment des Césars, c'est de faire la liste des oubliés, de ceux qu'on aurait aimé voir, ne serait-ce que dans les nominations. On a parlé du Rendez-vous de l'été de Valentine Cadic. Moi, je pense au film Enzo, qui est le film posthume de Laurent Quentin. chantait par Robin Campillo. Bon, Kika de Manon Clavel était un peu présent, mais aurait pu l'être plus. La mer au loin de Saïd Amiche, qui nous paraît être sorti il y a une éternité, puisqu'il est sorti au tout début de l'année dernière, mais qui était, nous, à Libé, un film qu'on avait beaucoup défendu en 2025. Donc voilà, il y a toujours le jeu des déceptions. On a l'impression que La Petite Dernière a eu aussi son moment de reconnaissance cannoise et qu'il y avait un truc très joli de transmission qui se passe entre Nadia Mehdi et Afsia Herzi quand l'actrice dit à l'autre « je ne t'oublierai jamais ».
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Antoine sur cette sélection ? Est-ce qu'elle manquait d'ambition ?
Bah, après, je pense que...
D'ambition cinématographique, je veux dire.
Ils ont fait avec ce qui a été produit l'an dernier. c'est ça. Moi, j'ai essayé de remonter un peu tout ce qui est sorti en France l'an dernier. Ça n'a pas été une grande année inventive pour le cinéma français.
L'an dernier, d'ailleurs, était une année... On peut jamais se lancer dans les espèces d'interprétations de chiffres. Ça a été une année décevante en termes de fréquentation. Je crois qu'ils ont réussi à finir l'année à moins 13% par rapport à 2024. Au début, on annonçait moins 15%. Il y a eu Avatar et Zootopia aux dernières minutes pendant les vacances scolaires qui ont un peu redonné de rose aux joues aux exploitants de cinéma. Mais ça a été une année et qui souffrait d'un manque de locomotive à la Comte de Monte Cristo et peut-être du point de vue du cinéma d'auteur, de propositions un peu plus ébouriffantes, effectivement, que le cinéma d'auteur français.
Mais est-ce qu'on ne manquait pas aussi de propositions formelles ? On parle beaucoup de scénarios, vous disiez que ça blablatait beaucoup.
Vous parlez de l'englouti de Louise Aymon, par exemple. C'est vrai qu'il y a eu le prix, qui a eu le prix de Luc, non ? Ou non, je confonds avec...
Elle a eu le prix Jean Vigo.
Elle a eu le prix Jean Vigo.
Et le prix des Cahiers du cinéma pour le meilleur premier film.
Moi, je pense que ça fait un
là,
moment
là, il y avait
que...
une ambition formelle dans ce film-là.
Voilà, moi, je pense que ça fait un moment, quand on regarde les distribution de prix aux films français, il y a une distinction qui se fait entre les Césars, quand je parlais d'un plébiscite presque au succès ou au gros plateau qui embauche beaucoup de techniciens, aux films bien produits, très produits, qui attirent de l'attention, etc. Je pense que ça fait longtemps qu'on remarque ce hiatus entre les films récompensés pour une ambition formelle dans des prix qui sont pas ceux des Césars et les films plus fédérateurs, je pense, qui arrivent aux Césars et qui, pour moi, typiquement L'Attachement, je pense, c'est presque symptomatique d'un quand on parlait de ce moment un peu câlinou, inquiet, de grande ronde de solidarité du cinéma qui rappelle ses valeurs et son modèle, etc. L'Attachement, c'est un film sur une suite de deuil et de liens de solidarité, de famille de substitution.
Vous me servez une transition parfaite. Voilà. Nous allons écouter le câlinou.
Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour une heure ou deux...
Moi, j'ai dit ça.
On fait la course ?
J'ai pas envie de faire la course, vas-y, toi.
Tu connais rien, petit garçon. T'as pas d'enfant.
Je vais me préparer.
Qu'est-ce que je fais, moi ?
Je sais pas. Tu veux faire un dessin ? Ça veut dire quoi, ça ? Oui ou non ?
Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman.
Elle est morte.
Perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei fazer.
Est-ce qu'Alex l'aimera plus que moi?
Un père a de la place pour tous ses enfants.
Sauf que je ne suis pas son enfant.
L'Attachement de Karine Tardieu a remporté donc hier 3 récompenses, meilleure adaptation, Vima la Ponce, meilleure actrice dans un second rôle, et le Graal, meilleur film. Antoine Guillot, L'Attachement, vous qui l'avez vu il n'y a pas si longtemps.
Oui, je l'ai rattrapé parce que je sentais que ça montait. Écoutez, hommage d'abord à Valeria Bruni Tedeschi, qui est avec Isabelle Huppert, sont les deux plus grandes actrices françaises. Pourquoi ? Parce qu'elles arrivent à transmuer, à rendre exceptionnel n'importe quoi, même ce qui est le plus mal écrit. Je trouve ce film très mal écrit. Vraiment, pour ce qui est des dialogues, c'est terrible à quel point Vima la Ponce, que j'adore dans tous les films qu'elle a fait, je l'ai trouvée très mauvaise dans celui-là, parce qu'elle a des choses impossibles à dire, comme Pio Marmaille, ce sont des dialogues beaucoup trop écrits. Valérie Bruni Tedeschi met de la vie dedans, mais un peu de folie, un peu de décalage, etc. Et ça, c'est ce qui sauve beaucoup le film. Par ailleurs, je craignais, en le voyant, effectivement, bon, formellement, c'est la même chose que Nino, hein, c'est, voilà, ça réinvente pas le cinéma, mais je sentais venir le scénario programmé de la mise au pas de la libraire féministe, indépendante, pas mariée, etc. En disant, bon, ok, c'est bon, voilà, on va lui montrer que la famille, c'est bien, etc. Le film est beaucoup plus intéressant que ça, pour le coup, trouve d'autres attachements possibles, d'autres relations, tout en restant indépendante. Donc, c'est ce qui sauve un peu le film avec Valérie Bruni-Tedeschi. Mais encore une fois, où est le cinéma ?
Sandra Onana, est-ce que vous avez trouvé du cinéma dans ce film ?
Alors, je l'ai vu il y a plus longtemps. Moi, je me rappelle qu'au moment où je l'ai vu, j'avais pensé... C'était un moment où ce qui était encore un peu frais dans ma tête, c'était le mélodrame des Frères Larrieux avec Karim Leclou. Évidemment, on m'échappe là tout de suite. La vie de Jim.
Ah oui.
Le roman de Jim.
Le roman de Jim. Bravo. Le roman de Jim.
Et donc...
Autre absent des sélections de cette année, d'ailleurs, non ?
Mais c'était pas l'année d'avant.
Oui, il a eu sa petite statuette
l'année d'avant, Karim Leclou. Mais oui, et donc c'était un moment où je me disais, ah, c'est marrant, comme dans le mélodrame français, il y a cette figure un peu du papounet au cœur gros qui est en train de monter. La Pio Marmaille joue un veuf seul avec son gamin, et donc il y a quelque chose qui est censé être plus attachant dans l'armure du père qui se fendille au moment où il doit être à la fois un père et une mère, théoriquement, si on le prend dans les exceptions très, très genrées pour un enfant. Voilà, mais comme Antoine, j'y ai vu des petites choses. Je trouvais ça assez joli, ce personnage de la voisine qui, par définition, est quelqu'un qui est sur le palier de la vie des gens, qui est pas censé rentrer dedans et qui se retrouve mêlé à la vie de son voisin. Voilà. Après, est-ce qu'on avait anticipé que ce serait si haut dans les nominations au César ? Je pense que personne ne l'avait vu venir. C'est ces moments où.
Mais parce que ça a eu un gros succès en salle. On parlait du collège des votants. Sont avant tout des spectateurs de cinéma, pas particulièrement cinéphiles.
Des exploitants aussi. Je crois que le collège des exploitants.
Voilà. Donc dès qu'un film marche beaucoup, il est visible. Les gens vont le voir et votent pour.
Un dernier mot, il nous reste une petite minute avant la fin de cette émission. Peut-être quelques pronostics ou quelques ambitions pour les Oscars. Je rappelle que la 98e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 15 mars à Los Angeles. Antoine ?
Je dois faire un pronostic.
Oui, hein. Votre boule de cristal pour les Oscars.
Ah bah moi, j'aimerais beaucoup que ce soit Une bataille après l'autre ou Marty Supreme, dont je parlais tout à l'heure. Les deux sont très bien et ce sont peut-être les derniers vestiges, les derniers moments d'un cinéma de studio plus ou moins indépendant, puisque Marty Supreme, c'est A24, qui réinvente encore un peu quelque chose aux États-Unis. Mais enfin, vu ce qui se passe dans le domaine capitalistique actuellement, on peut être assez inquiet, non pas pour cette édition, mais pour l'édition de l'an prochain.
Un minuscule mot peut-être sur les ambitions françaises, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Arco, je crois, et sera présent aussi.
Jafar Panahi nous représente, qui est reparti sans rien hier. Je pense que ce serait un beau moment que Jafar Panahi et son Oscar sur scène, au nom de la France, c'est la bizarrerie, mais quand même.
Bien, merci beaucoup à tous les deux, Sandra Onana et Antoine Guillaume, d'avoir regardé cette cérémonie et d'être venus nous en parler. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de France Culture, et toutes les références sont à retrouver sur la page. Page de midi.